Phare FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Richard McClintock, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes ancien entraîneur de Saint-Etienne, vous avez été à la tête de l'équipe nationale belge de 2004 à 2014 avant de faire un break. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous lancer dans cette nouvelle aventure sportive avec Bourgoin depuis novembre? On rappelle donc que vous êtes le nouveau directeur sportif du CSBJ.
C'est un cadeau qu'on ne pouvait pas refuser. Je crois que de prendre la tête du CSBJ, un club mythique, un club historique dans le rugby français, ça ne pouvait pas se refuser. J'ai mis même pas 5-10 minutes pour dire oui à l'offre que me faisait le président Hafner, même si je savais que c'était un cadeau, on ne va pas dire empoisonné, mais un cadeau qui était peut-être difficile à avaler. Mais bon, non, j'ai pas du tout hésité. C'était même un grand honneur qu'on ait fait appel à mes compétences.
Pourtant, vous aviez refusé d'entraîner même certaines autres équipes nationales. Pourquoi Bourgoin, finalement?
Oui, après la Belgique, ça faisait 10 ans. J'étais parti, je veux dire, avec les honneurs, hein, puisque j'ai eu droit à la récompense suprême, donc ça c'était quelque chose d'important aussi aux yeux de ma famille. J'avais besoin de souffler, puis de m'occuper un peu de mes enfants, surtout on pourrait dire le second qui justement a entamé une carrière un peu sportive. Et puis bon, les propositions, il fallait un challenge vraiment intéressant, quelque chose qui me fasse vibrer, et puis surtout qui puisse me permettre de travailler avec des gens avec qui je me sente bien, que je puisse apprécier. Et l'occasion que m'a donné le président Hafner a regroupé tout cela, c'est-à-dire un club, une belle aventure, et puis surtout retrouver un garçon comme Alexandre Péquillier, qui est un garçon que j'avais croisé depuis de nombreuses années, lui amener un peu l'aide qu'il m'avait apportée lorsque j'étais à Saint-Etienne, et puis pouvoir amener aussi Arnaud et Paqui, mes deux adjoints, dans cette aventure.
Qu'est-ce qui vous fait vibrer finalement à Bourgoin? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette équipe?
Oh, c'est tout, hein. Je crois que c'est tout ce qui entoure déjà le club, ces tribunes, ce stade. Et ce vestiaire, c'est vrai que c'est mythique. Et puis bon, bah, j'ai aussi, entre guillemets, lorsque je suis arrivé dans les années 93 ici sur la région lyonnaise, bah, c'était un peu, on va dire, l'essor de Bourgoin qui commençait à paraître. Donc automatiquement, on suit avec attention ce qui se passait. Puis à Givor, j'ai rencontré des garçons qui avaient été formés à Bourgoin. Je pense à Wilfried Desbrosses, après René Benoît Guérandon qui nous a entraînés, Stéphane Kurt, Raphaël Morin, donc des garçons qui me parlaient vraiment de Bourgoin. J'ai eu l'occasion de venir voir des matchs. C'est vrai qu'on sentait une ferveur, une ambiance qui donne envie. C'est un peu un stade à la britannique. Et puis surtout, ses supporters qui étaient enthousiastes. Je me rappelle, nous, on allait faire un match de phase finale et on s'était arrêté à Nîmes, voir un match de finale de Pau contre Bourgoin. Je crois que c'était en conférence européenne. Et c'est vrai que c'était tous ces bus. C'est vrai que ça donnait envie de se dire, tiens, ça, c'est un club qui fait vibrer. Quand l'occasion s'est présentée, je vous le dis, j'ai pas pu hésiter. Et j'y vais et je plonge avec délectation depuis un mois.
Pourtant, vous avez hérité d'un club à la situation sportive et financière assez compliquée. Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien avec vos équipes?
Oh, d'abord, j'ai rien hérité du tout. Hein. Ce club ne m'appartient pas, c'est ce que j'explique un peu à l'ensemble des gens. C'est vrai que c'est un peu compliqué des fois, même les supporters, de comprendre que ce club n'appartient à personne. Il appartient à l'histoire seulement, et après c'est à nous qui en faisons un passage. J'essaie d'apporter ma nouveauté, j'essaie d'apporter un essor nouveau, j'essaie d'apporter des idées un peu qui ont fait aussi un peu leur preuve dans les différents clubs où je suis passé. Ça peut être lourd parce qu'actuellement la situation est un peu difficile, mais je crois que c'est justement pour ça qu'elle m'intéresse. Venir lorsque tout va bien et être le 30e après le 29e et surtout avant le 31e ne m'intéressait pas. J'ai toujours fait des aventures où, sans prétention, j'étais le premier, que ce soit en Belgique, que ce soit à Saint-Etienne. Bourgoin, certes, ben peut-être j'étais le premier après ces années galères de pouvoir essayer de le rehausser. C'est mon objectif, c'est mon ambition, et puis je sais que je suis accompagné de gens très compétents autour de moi.
Quand on écoute un petit peu les joueurs, on a l'impression que ça se passe plutôt bien à l'entraînement. Qu'est-ce qui fait que ça se passe pas aussi bien sur le terrain et qu'aujourd'hui le CSBJ est lanterne rouge?
Parce qu'il faut du temps, il faut du temps, certes. C'est déjà important, comme j'ai dit, il faut que les hommes se sentent bien avant de devenir des bons joueurs. Bon, certes, j'ai mon BAFA, c'est peut-être pour ça aussi que ça se passe bien sur le terrain, c'est-à-dire à l'entraînement. Mais j'ai également mes diplômes sportifs, ce que certains oublient. Ils pensent que comme on n'a pas un nom très très connu, on n'a pas travaillé, on ne connaît pas, on a aussi les compétences. Donc c'est certain que d'abord, il faut que les hommes se sentent bien, comme je le dis, et ensuite après sportivement, ben là, ça fait qu'un mois que nous sommes dessus. Il y a beaucoup d'améliorations, et puis après, il y a aussi beaucoup de choses à régler, parce que le club, c'est pas uniquement que l'équipe une. Ce club, comme je l'ai dit et je le répète, hein, il est malade, hein, il faut être clair. C'est un club qui a vécu des hauts sommets, maintenant il est un peu dans le bas. Et il faut donc soigner tout le club, donc on y travaille fortement. Et j'ai la chance d'être entouré d'une équipe, je le dis, sportive, mais également aussi que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau du partenariat, qui sont jeunes, qui ont cette ambition de le faire avancer. Donc on s'y met, ça fait un mois, on travaille sur tous les aspects de ce club. Sportivement, je pense qu'on voit déjà des améliorations, mais après on hérite aussi d'un héritage. Et là, quand je prends cet héritage, voilà, c'est comme un peu lorsque vous ouvrez un peu devant le notaire le testament, il y a des fois des bonnes nouvelles, puis des fois il faut payer. Donc vous êtes obligé de le refuser. Ben moi j'ai pas refusé, donc c'est-à-dire qu'il faut aussi que je règle, on va dire, un peu tous les problèmes d'auparavant, et ben on va le faire. Et puis s'il faudra mettre un mois, on mettra un mois. S'il faut 6 mois, on mettra 6 mois. Si c'est 1 an, on mettra 1 an. Et si c'est 2 ans, on mettra 2 ans. Mais il est clair que ce club, à un moment ou l'autre, retrouvera ses couleurs, mais peut-être pas au même endroit, pas au même niveau qu'il était auparavant.
C'est-à-dire que vous n'excluez pas même une descente en fédéral du coup ?
Non, je l'exclus pas, heureusement. Après, c'est pas celle que j'envisage, mais je l'exclus pas. Je serais idiot de vous dire que à tout prix, on va rester en Pro D2. C'est très compliqué. On est 16 au départ, il y a un premier, il y a un 16e. Pour l'instant, on a la 16e place, mais on n'est qu'à la 14e journée. Je rappelle que c'est à la 30e qu'il faut payer l'addition. Donc pour l'instant, c'est certain qu'on a du retard. Mais maintenant, si c'est le cas, certes, peut-être certains abandonneront vite et tourneront leur veste auprès de Bourgoin. C'est pas le cas. Et on fera, nous, l'objectif de remonter au plus vite. Pour l'instant, c'est pas du tout dans nos pensées. Moi, en tant que manager, je suis obligé de le mettre aussi en perspective, ce que je le fais. Mais par contre, pour les joueurs et pour l'ensemble du staff, on fait tout pour que ce club reste en Pro D2, où il a sa place et où est sa place en plus.
Quand vous êtes arrivé, vous disiez que vous aviez trouvé un groupe sain. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Vous êtes toujours d'accord avec ce que vous disiez à l'époque ?
Oui, c'est un groupe sain. Après, le fait est, c'est que j'ai un groupe de 44 contrats, ce qui est énorme pour un club pro. Donc c'est vrai qu'il faut aussi, entre guillemets, essayer de ménager la chèvre le chou, ménager un peu tous les égos de chacun. Après, c'est compliqué, c'est un sport, chaque week-end, on repart à la bataille. Et puis certains, ben, s'ils n'arrivent pas à attraper le bon navire, ben, ils restent à quai. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les joueurs, mais je crois qu'ils le comprennent. Ils comprennent que je ne suis pas responsable, le premier, d'accord, c'est peut-être ce qui s'était passé auparavant. On essaie de faire avec. Il est certain que ce groupe-là, ces garçons-là, se montrent vraiment un aspect fantastique au niveau humain, c'est-à-dire par leur investissement, par leur engagement. Après, peut-être est-il encore malade, pas physiquement, parce que c'est des garçons qui font vraiment les efforts, mais peut-être un peu dans leur tête, dans leur esprit. Donc c'est vers ça qu'on y travaille pour justement leur redonner la confiance en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme, parce que peut-être on les a aussi un peu négligés, on les prend pour des petits-enfants, et ils se comportent un peu, certaines fois, comme des petits-enfants.
C'est quelque chose qui est assez caractéristique de votre méthode de management, c'est de considérer les joueurs comme des hommes avant qu'ils soient simplement des joueurs.
Je ne sais pas si c'est propre à moi, hein, mais bon, je pense que ça doit être le propre de chaque entraîneur, encore que certains restent que sur le sportif. Non, comme j'ai dit, d'abord c'est de la matière humaine, hein, avant tout, hein, avant qu'elle soit sportive. Je pense que je pourrais paraphraser certains entraîneurs qui disaient qu'ils pourraient entraîner à n'importe quel sport, puisque c'est toujours des hommes, il suffit juste de mettre la technique. Donc il faut juste sortir le meilleur des hommes. Donc oui, au début, en plus, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qu'il y a derrière le joueur, c'est-à-dire d'abord l'homme, connaître un peu ses compétences aussi autres que sportives, et puis surtout son état d'esprit. Après, c'est certain qu'aussi, il ne faut pas négliger le côté sportif, hein, faut pas croire. Là, c'est un peu le discours qu'on a et qu'on y travaille fortement. Mais après, il y a beaucoup de travail technique sur le terrain. C'est pour ça que je m'encadre souvent de techniciens qui sont très pointus, qui justement vont m'apporter ce côté-là. Et moi, je vais pouvoir plutôt plus, entre guillemets, travailler avec ces garçons sur l'aspect un peu plutôt psychologique et surtout sur le fait de leur faire comprendre que c'est d'abord qu'un sport, qu'un jeu. Et que lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils le pratiquaient sans nulle arrière-pensée. Et il faut qu'ils continuent à le faire, même s'ils sont adultes et même s'ils sont professionnels.
Qu'est-ce qu'il faut changer, selon vous ? Qu'est-ce qu'il faut rénover aujourd'hui au CSBJ ? Est-ce que le club est resté trop sur ses saisons passées, sur sa gloire passée ?
Vous avez 20 minutes seulement à me donner pour ça va être compliqué. Ce qu'il faut changer, il y a tellement de choses à changer et en même temps, il y a tellement de choses aussi auxquelles il faut s'appuyer. Je veux dire, c'est certain qu'il faut faire du changement, petit à petit. Peut-être ce club-là, justement, reste trop un peu sur sa gloire des années 90. D'accord ? Le rugby a évolué à une grande vitesse, mais peut-être on n'a pas su évoluer à ce registre-là. Les clubs à côté bénéficient aussi d'une montée en puissance, parce qu'économiquement, c'est plus puissant que Bourgoin, je pense au Loup. Donc il est certain qu'à un moment ou l'autre, les premiers se retrouvent les derniers se retrouvent les premiers. Hein. Je paraphrase cette fois-ci un célèbre entraîneur du début du premier millénaire, hein, il disait les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc pour l'instant, on est dans une phase un peu difficile. Donc il faut s'adapter, il faut savoir garder ses racines, mais également peut-être renforcer son tronc, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le présent, puis surtout chercher à faire monter les branches, c'est-à-dire le futur. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la remise en forme du centre de formation, mais également sur ce stade, on a beaucoup changé dans le stade. Une nouvelle tribune va nous être offerte, entre guillemets, par la municipalité et qui va nous permettre aussi de travailler différemment, que ce stade-là soit ouvert tous les jours avec des séminaires. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on travaille sur beaucoup d'aspects. La communication est importante. Déjà, le fait d'être avec vous et d'expliquer ce qu'on va faire à Bourgoin est important parce que les gens pensent qu'on ne veut pas expliquer, qu'on veut cacher, mais au contraire, on veut te montrer vraiment ce qu'est la réalité de ce club et ce qu'on va en faire. Et c'est pour ça, quoi. Donc on a beaucoup d'aspects à remettre en place, ça il est certain, mais on y travaille. Je pense qu'il faudra peut-être quelques mois, peut-être quelques années pour que ce club-là Bon, on ne reverra plus le top 14, il faut être clair, il faut être bien conscient que top 14 désormais c'est des grosses écuries, on n'a pas ce budget-là. Ou alors peut-être, on ne sait pas, dans vos auditeurs, un grand mécène qui décide d'un coup de nous mettre sa fortune à notre service, et là oui, on sera en top 14. Mais sinon non, voilà, surtout asseyons ce club en Pro D2, donnons-lui une grosse assise, et puis travaillons pour justement amener du spectacle et que le public vienne en nombre voir des enfants de la région et puis d'autres aussi de la région, parce qu'il ne faut pas croire qu'il faut rester que dans la région et qu'on ait du spectacle à Rajon.
La Pro D2 aujourd'hui, c'est vraiment qu'une question de porte-monnaie? Ou le top 14 plutôt d'ailleurs?
La Pro D2 commence à être une question de porte-monnaie, c'est certain. Le top 14, ça l'est automatiquement, il ne faut pas rêver. Hein. Je veux dire, quand on voit les têtes de série du top 14, c'est qu'à leur tête, il n'y a uniquement que des gens qui ont énormément d'argent, que ce soit Lorenzetti au Racing, que ce soit encore même Boudjela sur Toulon, mais je veux dire Altrad sur Montpellier. Donc c'est vrai qu'ici, il n'y a pas d'argent. Ou alors, il faut avoir un gros travail. Et ça, c'est un club qui doit nous donner de l'ambition, comme La Rochelle, qui a su bâtir avec justement avec un président qui est là depuis de nombreuses années, qui a su s'entourer d'un grand cadre autour de lui de chef d'entreprise, qui a su construire un stade, qui a fait confiance à un entraîneur aussi qui n'était pas à l'époque renommé, qui était Patrice Colazo, un ami à moi, et qui lui a donné les rênes, qui lui a fait confiance année après année. Donc ça va être un exemple à notre niveau, c'est-à-dire en Pro D2. C'est parce que maintenant la Pro D2 commence aussi également à toucher beaucoup d'argent. Je crois que l'objectif, on l'a vu sur Bourgoin, depuis plusieurs années, ça se joue des fois la descente uniquement que sur le côté financier, pas sur le côté sportif. Cette année, on s'est lancé le défi que quoi qu'il arrive à la fin de l'année, si descente il doit avoir, elle soit uniquement sportive, mais pas financière. Il faut qu'on en arrête de parler de Bourgoin plutôt dans, entre guillemets, j'ai dit, les faits divers financiers du rugby, c'est-à-dire sur des trous financiers. C'est vers ça qu'on se bat depuis un mois et demi. Déjà, le travail du président Hafner et de l'association a fait déjà un énorme travail. Il y a encore beaucoup de choses à faire et puis on va bâtir ce club, pas sur des ruines, hein, mais peut-être comme un ravalement de façade, comme un renforcement de la maison, un peu des bases. Et puis surtout, comme je dis, depuis un mois, je suis un peu la Valérie D'Amido du CSBJ, c'est-à-dire qu'aussi, lui redonner une certaine couleur, refaire les tapisseries, refaire les murs, redonner envie aux gens d'y venir, et puis surtout donner envie aux joueurs de s'y installer et de bâtir une nouvelle aventure.
Alors, à contrario, quels sont les points forts quand même du CSBJ sur lesquels vous pouvez justement vous appuyer, ces fondations-là qui sont importantes pour vous?
C'est l'immense amour que dégage le CSBJ, mais même pas qu'uniquement dans la région, mais même dans toute la France, même dans l'Europe, puisque à l'annonce que je venais au CSBJ, j'ai été inondé, mais vraiment d'SMS, et j'étais surpris de gens totalement que j'avais presque oublié, mais qui étaient vraiment ravis que je prenne un club comme le CSBJ. Donc c'est-à-dire qu'il a une très grande image. Il faut être clair, quand je vais à l'étranger, il m'arrive de discuter avec des gens qui sont un peu au courant du rugby. Hein. Et dès qu'on dit Bourgoin, de suite, c'est mythique pour eux. C'est un club, Bourgoin est connu par le rugby. Donc il faut s'appuyer sur cette connaissance-là. C'est ce que j'ai expliqué au premier idylle, hein, Vincent Schricky, en lui expliquant que c'est vrai que le vecteur du rugby est un vecteur de communication important, que Bourgoin doit encore plus l'utiliser. Et puis surtout, c'est sur l'amour qu'a ce club auprès de ses supporters. Alors c'est vrai que quand il est un peu déçu, comme il est actuellement, il est capable de lui tourner le dos. Et comme j'explique aux joueurs, il appartient qu'à eux de pouvoir ramener des milliers de personnes à Rajon, ne serait-ce que déjà en mouillant le maillot, dans l'engagement. Après, les défaites peuvent exister, mais il faut qu'elles existent avec du combat.
Surtout qu'on a vu de très beaux matchs, je pense notamment celui contre Yona, où ça s'est joué à pas grand-chose finalement.
Oui, ça se joue à pas grand-chose, même comme le dernier, Angoulême, où à 78e minute, on a encore la victoire en main. Et comme je dis, ce sont encore des garçons qui sont encore fragiles, sportivement certes, mais surtout mentalement, et puis surtout qu'il faut qu'ils aient besoin d'avoir confiance en eux. Alors comme je dis, moi je ne suis pas magicien, même si des surnoms fleurissent à mon égard, mais non, je crois qu'on travaille. Au moment ou l'autre, ces matchs-là, on va les gagner, donc je ne m'inquiète pas. Maintenant, est-ce que ce sera la semaine prochaine, ou la semaine d'après, ou dans un mois, je ne peux pas le dire. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup pour cela, et puis... Quoi qu'il arrive, ces garçons-là, au moins dans l'investissement qu'ils mettent là pour sauver le club, ils sont méritants.
Alors justement, il y a quand même des gros matchs qui arrivent contre Aurillac, notamment avant la trêve de Noël. En janvier, il y aura aussi Colomiers ou Agen, notamment. Comment ça se prépare, des gros matchs comme ça?
Finalement, c'est peut-être les plus faciles, parce que les joueurs sont motivés d'eux-mêmes. Souvent, c'est plus difficile avec des équipes un peu, entre guillemets, moins fortes, puisque pour l'instant, c'est nous qui sommes les derniers, donc je pense que c'est nous qui sommes les moins forts. Non, mais je veux dire, ça se prépare comme un autre match, hein, surtout que ce match-là contre Aurillac, on va mettre une grosse surprise pour le public en place, pour féliciter, pour remercier beaucoup de gens qui ont justement donné à ce club-là. Beaucoup de personnalités seront présentes. Et puis, comme je dis, hein, c'est le dernier match de la saison aller, dernier match de l'année. Donc, c'est aux joueurs aussi de partir en vacances et de donner aussi un peu de joie aux spectateurs. Donc, ils se préparent assez facilement. En plus, on lance aussi l'agenda du CSBJ, ce qui est une nouveauté au niveau du club. Donc, il y a plein de fêtes qui font que ce match-là sera un peu plus spécifique que d'autres. Mais après, à la rentrée, on va à Colomiers. ou si on aura une surprise, puisqu'on se déplacera dans un quart, ça y est, on retrouve un quart nos couleurs, ce qui est une première chose aussi pour pouvoir justement communiquer à travers. Vu qu'on fait des centaines de kilomètres, il n'y avait pas mieux que de se balader avec un quart aux couleurs de Bourgoin. Donc c'est vrai que voilà, donc les gens peuvent voir ça comme de l'artifice, mais comme je dis, la communication passe par là, et puis aussi le fait que Bourgoin a besoin de communiquer à travers la France, mais même à travers l'Europe, puisqu'on a d'autres projets pour pouvoir ouvrir Bourgoin à d'autres cieux.
Par exemple, quel type d'autres projets est-ce que vous aimeriez développer ?
Oh, on va garder le secret, parce que certains ont envie de le saisir, non, mais le rugby se développe un peu partout dans la planète, peut-être dans un lieu actuellement qui est un peu compliqué, mais qui va avoir un gros développement. Je crois qu'il est important que Bourgoin soit peut-être associé là-bas à des clubs pour pouvoir montrer qu'on a un savoir-faire. Et puis pourquoi pas arriver aussi à s'ouvrir d'autres marchés, parce qu'il faut être clair, hein, c'est un marché aussi économique qu'il faut qu'on ouvre, c'est aussi ma fonction. Le sportif est une grosse partie, mais sans argent, sans l'aspect financier, sans aussi l'aspect communication et un peu médiatique, Bourgoin va retomber dans ses travers. Donc c'est pour ça qu'on s'ouvre à d'autres projets, à d'autres marchés, que dont vous aurez la teneur le plus rapidement possible, mais comme on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, donc on va attendre d'abord de l'avoir bien en main avant de pouvoir en parler.
On aura des infos bientôt alors, on espère.
En exclusivité.
Vous le disiez au début de l'entretien, on n'est pas encore tout à fait à la moitié du championnat. Est-ce que vous-même, vous savez quelles sont peut-être vos ambitions déjà pour 2017 ? C'est quoi ? C'est de remonter dans le tableau ? C'est de plus être relégable ? Comment est-ce que vous vous positionnez ?
Ben, ça, c'est le 1er janvier qu'on fait les vœux. Hein. Pour l'instant, non, il n'y a, rien de cela. Pour l'instant, c'est match après match, je comprends. Après, il est certain qu'on ne peut pas redescendre plus bas, comme je leur explique. Hein. À part s'ils nous créent une 17e place sur un championnat de 16, on ne peut pas descendre plus bas. Donc maintenant, il faut qu'on remonte. Par contre, comme je leur explique, des fois, on monte 4 à 4 les étages et on tombe. Et des fois, il faut monter centimètre après centimètre. Là, il y a 17 étapes. On a pris du retard, certes, mais bon, rien n'est perdu. Après, et si c'est le cas, c'est que peut-être ils n'ont pas fait les efforts nécessaires pour pouvoir accéder à cela et qu'on est à notre place. Il faut être clair aussi, peut-être ils sont à notre place. Hein. J'ai la prétention de croire qu'ils ne le sont pas. Eux, peut-être, ne le croient pas encore assez. Donc on va essayer encore de faire changer les mentalités dans la tête de ces garçons pour qu'ils puissent à un moment vraiment croire en eux et avancer le plus rapidement possible et éviter de perdre du temps à des gamineries ou à des, entre guillemets, je dis, des états d'esprit qui ne correspondent pas à ce qu'est la situation.
Il y a un vrai problème d'état d'esprit aujourd'hui dans l'équipe ?
C'est pas l'état d'esprit, comme je dis, c'est des garçons qui ont, j'ai l'impression d'avoir un peu des garçons qui sont traumatisés. Alors j'ai beau expliquer que les traumatismes, je pense que certains en ont vécu différents et qui sont bien plus durs, et qui sont plus durs à se relever. Mais certes, un traumatisme sportif qu'on est professionnel, ben c'est aussi dur. Donc c'est certain qu'ils ont eu un certain traumatisme. Alors lequel, il est difficile à expliquer. Est-ce que c'est une surcharge de travail ? Est-ce que c'est un appui trop appuyé sur le fait de les considérer peut-être comme des joueurs pas assez performants ? Ça, à la limite, ça appartient à mes prédécesseurs. Nous, actuellement, on voit qu'on est souvent obligé de reprendre des choses qui sont basiques dans ce sport-là et qui ne devraient pas normalement apparaître à ce niveau.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement au CSBJ, alors, avant cette trêve de Noël, avant cette nouvelle année ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite finalement ?
Ah, nous souhaiter, je crois qu'on veut tous rester en Pro D2, donc c'est certain que le premier objectif, c'est de rester dans cette Pro D2. Et après, ensuite, eh ben, si jamais ce n'est pas le cas, d'y remonter au plus vite, mais pas y remonter n'importe comment. Je crois que depuis 4, 5, 6 ans, ce club-là a un peu de crever et seul au lieu de le changer, de se mettre au travail, de travailler vraiment différemment, mais que des rustines, en plus avec une mauvaise colle, ce qui fait qu'à chaque fois, ça repart un peu, comme on dit vulgairement, en bibine. Donc c'est vrai que l'objectif est plutôt aussi de reconstruire bien ce club sur des basses saines. Mais par contre, c'est certain que ce serait plus facile en Pro D2, parce que ça nous permettrait encore de continuer à travailler avec le soutien inconditionnel de nos supporters, de nos partenaires. Plus difficile au niveau inférieur, même si je sais que beaucoup de gens nous accompagneront. Et après, c'est certain, encore plus impossible si jamais, justement, j'expliquais tout à l'heure, s'il y avait accompagné une descente sportive, il y avait aussi une descente administrative. Donc c'est pour ça. On n'est pas à l'abri. Tous les clubs de Pro D2 sont actuellement sous le regard d'ADNCG. Je veux dire que peut-être on risque de descendre sportivement, mais peut-être on risque d'être même maintenu autrement, parce que d'autres clubs sont quand même dans des situations financières très difficiles, qui vont dans une escalade. Nous, justement, on a interrompu cette escalade, on préfère rester là sur ce registre-là, ce qui fait qu'on a peut-être une équipe qui est, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, moins forte, parce qu'il suffit qu'elle en prenne conscience qu'elle est plus forte et on passera le cap. Mais si elle n'est pas sanctionnée sportivement, ben peut-être elle pourra rester en Pro D2, au contraire de d'autres qui, eux, peuvent descendre administrativement.
Richard McIntock, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie pour cette parole que vous m'avez permis de distribuer à vos auditeurs.
Et on rappelle que Phare FM est partenaire donc de tous les matchs à domicile du CSBJ pour gagner vos places pour la réception d'Aurillac vendredi soir au stade Pierre Rajon. Direction de pharefm.com/CSBJ.